La méthode de manipulation numéro 12. La distraction ou le détournement de l'attention. La distraction est constamment utilisée par les magiciens et les pickpockets. D'un côté, la personne attire votre attention sur un objet ou une idée ou un geste. Et pendant ce temps-là, avec son autre main, elle fait disparaître votre montre. Nous avons ici un schéma semblable. La conscience des âmes est constamment occupée par le souvenir et le service et n'a plus de place pour d'autres informations. Dans la vie d'un Mickey, il y a toujours plus de services, de classes, de cuisine, d'administration, de programmes, etc. Quand on essaie d'attirer l'attention des âmes sur une information extérieure intéressante, il y a un rejet automatique, car l'âme est déjà saturée. Elle n'a donc pas vraiment l'espace et le temps pour aller regarder ailleurs. Plus l'âme est occupée, et moins de chances elle a de réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai toujours protégé mon temps libre pour avoir le temps de penser et de faire des activités en dehors du cadre. J'ai toujours été un esprit libre, ce qui dérangeait particulièrement les biquets prisonniers de Srimat. Numéro 13. La désinformation. La désinformation est une information qui paraît vraie, mais qui amène les auditeurs dans une direction très différente. Il est remarquable que dans le processus de désinformation, on commence par donner une information crédible, souvent vraie, qui va attirer l'attention et séduire la personne. On a l'impression que notre source est une source fiable. Ensuite, on donne une direction complètement différente à cette information, qui va désamorcer les recherches. En anglais, ils disent « to give spin ». Cela ressemble un peu au processus de vente qu'on a vu plus tôt. Donc, de même ici, beaucoup d'informations sur l'âme, son fonctionnement, le yoga sont très bonnes. Elles sont efficaces. Cela donne l'impression que cette connaissance provient d'une source fiable. On a donc tendance à acheter l'ensemble. On ne se rend pas compte qu'à un moment donné, il y a eu une bifurcation, un changement de voie, et que l'on n'est plus dans les choses vérifiables, mais dans une théorie sur l'histoire du monde. On se fait alors dire qu'on a été choisi, qu'on est super chanceux, et que Dieu a de grands projets pour nous. Et le tour est joué. On est passé de la spiritualité à la religion. Numéro 14. L'autocontrôle. Un des bijoux de cette connaissance, c'est l'autocontrôle. C'est la signification même de Raja Yoga. Être le roi de soi-même. Les connaissances sur l'âme, sur le yoga, sont très efficaces. On nous enseigne comment contrôler notre pensée et nos émotions. C'est super. Ça marche. Puis, on nous enseigne ensuite comment utiliser ces outils pour devenir imperméable au monde extérieur, aux influences, à Maya, et à n'accepter de vrai que ce qui est dit dans le Raja Yoga. On nous dit que le reste du monde se trompe et qu'un jour il se rendra compte que c'est nous qui avons raison et que le reste du monde nous rejoindra. En résumé, on devient très bon à être en même temps le prisonnier et le geôlier. C'est de l'autocontrôle. C'est comme si on nous enseignait à construire une prison, à s'y installer, et ensuite à jeter la clé. Numéro 15. Les menaces. Certaines menaces sont directes et claires. Par exemple, si vous faites une erreur, vous devrez la payer 100 fois. D'autres menaces sont indirectes ou subtiles. La destruction va survenir soudainement. Ou encore, dans les régions subtiles, il y a de nombreuses télévisions et Dieu peut voir tout ce que vous faites à chaque seconde. Entre guillemets, Big Brother is watching you. Ou encore, quand vous mourrez, vous passerez devant Dharmaraj, le juge suprême qui ne pardonne rien. Ou encore, vous allez tomber dans le caniveau et devenir comme des prostituées. Ou encore, si vous quittez, vous serez maudit. Murli du 24 décembre 2016, la veille de Noël. Ou encore, ceux qui partent vont avoir beaucoup de problèmes dans leur vie. Cela va les faire revenir. Surya Bai, dans une classe récente. Quel Dieu d'amour extraordinaire! On appelle ça le bâton et la carotte. Je connais personnellement de nombreuses âmes qui ont quitté la vie brahmine et qui n'ont aucun problème particulier. Non seulement ils ne sont jamais revenus, mais ils sont très heureux et ont beaucoup de succès. Si la philosophie du karma est vraie, et qu'on sait accumuler beaucoup de bons karmas en tant que bhikkhu, logiquement, on devrait recevoir un immense retour positif. Pour votre information, quand on consulte les nombreux récits de mort imminente, Near Death Experience, il n'y a pas de mention d'un jugement dernier, mais simplement dans la compagnie d'un ange, d'une révision du dernier épisode avec les leçons apprises. Nous faisons tous des erreurs. C'est le processus normal d'apprentissage. Il suffit de se pardonner et d'essayer de ne pas refaire la même erreur. Il y en a toute une variété possible. Il faut être créatif. J'avais un père extraordinaire qui nous disait « Faites vos propres expériences. Faites vos propres erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, pas à travers l'expérience des autres. » Don't worry, be happy. Numéro 16, l'isolement. Un jour, on s'aperçoit dans la vie brahmine que la plupart de nos proches sont des bhikkhus et de moins en moins de non-bhikkhus. On est coupé du monde de tous les jours. Nous avons notre propre langage, nos habitudes alimentaires, notre routine, notre habillement, nos textes, nos activités, notre culture, nos sources d'informations internes fiables, notre service, etc. On n'a plus vraiment le temps de s'informer, de faire des recherches, d'avoir des passe-temps, des amis, de faire de l'exercice. Il faut toujours faire plus de services. On nous dit, toutes les âmes qui n'auront pas reçu le message à la fin, ce sera mis sur votre compte de débit karmique. On se fait dire que le reste du monde extérieur est impur, le monde de Maya, qui mange de la nourriture impure, a des activités impures, ont des pensées impures, veut nous influencer, pour qu'on retourne dans le vieux monde démoniaque. Il est beaucoup plus facile d'influencer une personne isolée qu'une personne bien intégrée dans la société. De même, il est plus facile d'influencer une personne dans une période de remise en question. Son niveau de discernement est beaucoup plus bas que d'habitude. Numéro 17. L'épuisement, le manque de sommeil. J'ai vu bien souvent certains bhikkhus qui étaient comme des zombies, tellement ils étaient fatigués. J'ai moi-même eu des problèmes à un moment donné, même si je faisais attention. C'est facile à comprendre. Le corps a besoin de 8 heures de sommeil par 24 heures. Moins que cela signifie que le corps accumule une dette de sommeil qui va se manifester par un manque de concentration, une baisse du système immunitaire, une irritabilité, un manque de motivation, de plus grands risques d'accident, etc. En Inde et dans les pays chauds, le monde se lève très tôt et ils font la sieste. En Occident, spécialement dans les pays nordiques, cela n'existe pas. Le bon biquet en Occident se lève à 3h30, 4h, et se couche à 22h ou 23h. Cela fait 5h, 6h de sommeil. Cherchez l'erreur. Et dans les murs lits, on peut lire « Vous pensez que vous êtes occupé ? Ce n'est rien par rapport au futur. » Dieu aime tellement ses ressources qu'il souhaite les exploiter jusqu'au bout. Numéro 18. La passivité. Plusieurs murlis enseignent la tolérance totale. Cela m'a toujours interpellé, car pour moi, il y a une limite à l'abus. Ma chère petite mère nous disait « Bon et bête commencent par la même lettre ». Continuer à tolérer l'abus, c'est l'inviter. C'est jouer le rôle de la victime. Dans une des régressions que j'ai conduites, la jeune femme se voyait dans une autre vie comme un moine. Leur monastère avait été attaqué par des bandits et le moine est mort à force d'abus sans réagir. Après la régression, elle m'a dit qu'elle venait de se faire violer par son conjoint et qu'elle allait porter plainte. Elle venait d'avoir la confirmation dans la régression qu'elle devait apprendre à se défendre et ne plus jouer le rôle de la victime enseigné par les prêtres. Je l'ai vivement encouragé à porter plainte. Il a été condamné. Un des grands slogans biquet est « Ce qui s'est passé était bien. Ce qui se passe maintenant est très bien. Et le meilleur est à venir. » On pourrait imaginer une situation difficile où le slogan deviendrait « Tu t'es fait violer hier, c'était bien. Tu te fais violer aujourd'hui, c'est très bien. Et tu vas te faire violer demain, c'est encore mieux. » On peut voir que ce genre de slogan a ses limites. Il peut amener une grande passivité. La personne va se faire dire « Cela fait partie de ton karma. Tu payes pour une autre vie. » Gandhi expliquait que la dictature et l'exploitation s'installaient et prospéraient à cause de la passivité de chacun. Il était un exemple de non-coopération avec des dictateurs. Il agissait au risque de sa vie. Sans lui, que serait devenue l'Inde ? Les grandes avancées des droits en Occident ont été gagnées grâce au courage de milliers de personnes qui ont eu le courage de se tenir debout et de dire « ce n'est pas correct ». La passivité fait l'affaire des Illuminati. Ils financent différentes religions pour contrôler la population. Numéro 19. Les qualités à l'extrême. Un slogan au Canada dit « La modération a bien meilleur goût » pour inciter les gens à moins consommer d'alcool. Les murlis ont souvent tendance, au contraire, à être un peu extrémistes. Par exemple, le terme « karmatite ». Dans de nombreux murlis, on nous incite à être karmatite. Quand on regarde la définition de Jagdish, il explique que cela signifie être au-delà du karma dans le monde des âmes. En d'autres mots, on nous encourage à être complètement déconnectés et à ne plus être sur cette terre. La tolérance. Dans un murli récent, il était marqué « Est-ce que vous êtes tolérant à 100% tout le temps avec tout le monde. » Tolérer l'abus, la violence, la dictature, le viol, l'inégalité, etc., sans rien dire, invite à plus d'abus. Quelquefois, l'agresseur va changer. Mais combien de fois est-ce que cela va empirer ? la coopération. Vous devez coopérer avec tous, tout le temps. Je ferai remarquer que si quelqu'un demande votre coopération pour un acte criminel et que vous coopérez, vous êtes légalement et karmiquement criminel. Numéro 20. L'intoxication. L'ivresse. En français, on traduit le mot « intoxication » par « ivresse ». Mais la signification de l'anglais est « intoxication, empoisonnement, dépendance, lavage de cerveau, ivresse, étourdissement, ébriété, griserie ». En d'autres mots, le sens toujours considéré positif en Guyane est principalement négatif. Peut-être que l'intoxication n'est pas si positive que ça. Voyons voir. On trouve dans de nombreux murlis un encouragement à l'intoxication. Avez-vous l'ivresse d'être des âmes choisies, une future déité, des maîtres à l'autorité toute-puissante? J'étais un peu surpris au début que cela fasse partie du vocabulaire des yogis. J'ai compris rapidement qu'il y avait un côté très positif à cette ivresse, car cet enthousiasme débordant augmente de façon significative l'intensité de l'expérience de yoga. Non seulement je l'ai souvent utilisée, mais j'ai pris l'habitude de la mentionner quand j'enseigne la technique de méditation. Il est bien connu que les hatha yogis, eux aussi, utilisent toutes sortes de substances pour l'intoxication. La nôtre est purement mentale et spirituelle. L'ivresse est une de mes habiletés, qui m'a bien aidé au fil des années. D'ailleurs, plusieurs bhikkhus m'appellent Jean Ivre. Dès le début de ma pratique, j'avais de très belles expériences en me répétant simplement « Je suis une âme pure, je suis une âme pure, je suis une âme pure. » Comme j'avais une facilité pour l'autosuggestion, j'expérimentais d'être cette âme pure. L'ivresse amplifiait l'expérience et je volais. Je rentrais en contact avec la source. C'est le yoga facile. Essayez, ça marche. En anglais, ils disent « Intoxication will make you fly ». L'ivresse va vous faire voler. Donc, l'ivresse utilisée avec discernement et modération dans l'autosuggestion est un outil très efficace et utile. Je suis une âme puissante. Je suis un ange. Je suis libre. Je m'aime. J'aime le monde. J'aime la nature. Je suis l'enfant de Dieu, etc. Cependant, dans le mot intoxication, il y a le mot toxique. Autrement dit, un élément empoisonnant. Une autre définition que j'ai trouvée est « excitation euphorique avec trouble des sentiments, des émotions, des passions ou des perceptions ». Comme pour la drogue, on pourrait penser que la consommation abusive de certains aspects de la connaissance ait des effets toxiques similaires. Serait-il possible que même Dieu utilise cette intoxication pour faire passer différents messages qui serait difficilement accepté par notre conscience normale? Un des principaux effets négatifs de l'ivresse est le blocage de l'intellect. En d'autres mots, l'âme perd son sens du discernement, son sens critique, et s'ouvre à toutes sortes de manipulations et d'idées. Voyons le processus dans le prochain paragraphe. Le schéma de la manipulation aviat murlik. Quand on analyse le schéma typique d'un aviat, on peut constater que cette intoxication est presque toujours présente sous forme d'ivresse amoureuse et d'ivresse de l'ego. Numéro 1. La séduction du cœur. Cela commence par de grandes déclarations d'amour. Je vous aime infiniment. Vous m'aimez infiniment. J'aime chacun plus que l'autre. Vous êtes constamment dans mon cœur. Je pense toujours à vous. Vous n'aimez que moi et n'appartenez qu'à moi. Comment font les séducteurs? Ils vont dire à la future victime « Tu as de si beaux yeux. Tu es tellement belle. Tout en toi est merveilleux. Tu es si intelligente. Tu es une artiste. Je t'ai cherché toute ma vie et je t'ai enfin trouvée. Je t'aime tellement. Je t'aimerai toute ma vie. » Numéro 2. La répétition. Le même message est répété encore et encore et encore. Parfois des dizaines de fois, avec des images différentes. C'est typique de la suggestion. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le message passe alors seulement par les mémoires et le mental. Il ne passe plus par l'intellect. Il va directement au cœur. Le discernement est totalement laissé de côté. C'est ce qu'on appelle de l'intox. Numéro 3. L'intoxication. Comme les âmes très spirituelles aiment déjà Dieu au départ, il est facile de souffler sur la flamme de l'amour. Quand l'âme accepte ces suggestions, elle se sent très bien. Enfin, quelqu'un l'aime infiniment et est prêt à tout faire pour elle. En plus, son amoureux lui promet de la protéger, de la guider, d'être toujours avec elle. Elle projette sur cet amoureux virtuel tous ses désirs, son idéal, spécialement si elle a été déçue. Elle est attirée par cet amour parfait. L'âme s'abandonne à cette idée. C'est maintenant seulement le cœur qui parle. Elle tombe amoureuse. Je me souviens d'une femme dans une retraite qui me disait qu'elle était follement amoureuse de quelqu'un qui habitait en Russie. Elle ne l'avait jamais rencontré. Elle a communiqué avec la personne seulement par l'Internet. Elle ne l'avait jamais vu, mais elle était amoureuse par-dessus la tête. Numéro 4. La séduction de l'intellect. De la même façon, l'intellect est séduit par la flatterie. Vous êtes des anges, des dieux, la graine de l'humanité, des fleurs de lotus, les ancêtres de l'humanité, etc. qui stimule l'ego, appelé pudiquement respect de soi. L'âme est fière d'avoir été choisie parmi des milliards et de faire partie des âmes intelligentes qui ont tout compris. Enfin, quelqu'un reconnaît à quel point je suis une âme exceptionnelle. Personne ne l'avait remarqué jusqu'à maintenant, mais Dieu, lui, le sait. Il me le dit. Je le crois. Numéro 5. La répétition et l'intoxication. Avec la répétition, l'intox augmente. Quand l'ego est intoxiqué, l'âme ne réfléchit plus. L'intellect n'analyse plus. Le filtre laisse tout passer. Ce sont simplement de vieilles mémoires, des traits de personnalité, des tendances qui sont actives. Vous pourriez relire Le corbeau et le renard. Numéro 6. La comparaison et la culpabilité. Après avoir stimulé le cœur et l'ego, plusieurs idées l'attaquent en demandant à l'âme si elle est vraiment à la hauteur des titres. Comme elle ne l'est jamais, elle se sent inférieure et coupable. Le château de cartes sur lequel l'ego est monté s'écroule. Doux sentiment d'infériorité, d'impuissance et de faiblesse. Quel numéro êtes-vous? Êtes-vous toujours parfait? Êtes-vous vraiment toujours tout puissant? La balloune de l'ego éclate. Le même processus est utilisé avec le cœur. Dieu vous aime infiniment. Il fait tellement d'efforts pour vous. Mais est-ce que votre amour est illimité? Est-ce que vous aimez quelqu'un d'autre? Est-ce que vous m'oubliez? L'âme se sent alors infidèle ayant manqué à sa parole. Personnellement, j'ai toujours trouvé cela étrange d'aimer seulement Dieu. Bien sûr, j'ai un petit faible pour la source, mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour les Brahmines, pour les Terriens, pour ma famille, pour notre mère la Terre, pour les visiteurs de l'espace, pour la nature, les animaux, mon corps et même la technologie qui me permet de partager avec vous. Il paraît que Dieu est 100% amour et qu'il aime tous les êtres de l'univers. Si nous sommes à l'image de Dieu, peut-être que nous devrions aimer tous les êtres de l'univers. Quand on étudie la suggestion, en particulier la méthode d'Émile Coué, on apprend que c'est notre imagination et nos émotions qui nous dirigent, et non pas notre volonté. C'est pour cela que la séduction est toujours au début des murli. On fait toujours appel au cœur d'abord, pas à la logique. Numéro 7. La description du message. Maintenant que l'âme est amoureuse, intoxiquée, sans discernement, avec un ego blessé et un cœur coupable, elle est prête pour la programmation. On va alors lui suggérer de faire plus de services, de ne pas poser de questions, d'obéir, que le monde entier dépend d'elle, qu'elle doit se sacrifier, qu'elle donne tout, qu'il faut absolument que l'âge de fer disparaisse et que toutes les autres âmes font partie de la communauté démoniaque et que la bombe atmique est la solution. Même si l'âme n'est pas d'accord au départ avec certains concepts, on peut constater qu'après un certain temps, ses idées changent et sont réorientées dans la bonne direction. Numéro 8. Les bénédictions finales. Ces courtes phrases sont un résumé des titres et des instructions. Elles sont là pour rappeler à l'âme les points importants et renforcer la programmation. Après quelques années de programmation, l'âme n'a plus besoin de tout le processus et commence même à saturer de la répétition. Elle se contente alors de dormir pendant le murli et de se réveiller pour les bénédictions finales. Cependant, même si l'intoxication s'est évanouie depuis longtemps, pendant le sommeil hypnotique, la programmation est tout aussi efficace. L'âme va se conformer. Comme pour le chien de Pavlov, la boucle est bouclée. La libération dans la vie. On voit souvent des publicités nous invitant dans des magasins pour économiser de l'argent en profitant des soldes et des réductions de prix. Quand on se rend sur place, on se laisse souvent séduire par d'autres aubaines. Au final, quand on ressort du magasin, on a dépensé 3 fois plus d'argent que prévu. On trouve un scénario semblable dans cette connaissance. On nous dit « Si vous vous engagez dans cette vie biquée, si vous signez en bas de ce contrat spirituel, vous allez expérimenter la libération dans la vie. » Autrement dit, si vous donnez votre pouvoir, si vous rentrez dans ce cadre, si vous acceptez ces principes, ces limitations, cette connaissance, si vous donnez votre corps, votre temps, votre esprit, votre argent, si vous obéissez, vous allez être libre. Vous allez avoir plus de pouvoir et être riche dans votre prochaine vie. En réalité, quelqu'un prend le contrôle de notre vie avec notre consentement. On devient prisonnier d'un système séducteur, intelligent et sophistiqué. On a perdu notre liberté. En résumé, juste comme un animal affamé est attiré par la nourriture dans un piège ou un appât au bout d'un hameçon, les âmes souffrantes ou en quête de réponse sont attirées par cette connaissance. Elles expérimentent souvent une grande aide initiale, la méditation, la partie spirituelle les aide. À la suite de quoi, elles achètent tout le magasin, y compris des marchandises très douteuses. Le piège se referme. Imaginez que vous êtes un bel oiseau, habile et intelligent, et qu'on vous donne des outils pour construire un grand filet en or pour vous protéger des prédateurs et carnivores de toutes sortes. Jour après jour, vous tissez cette magnifique œuvre d'art qui brille dans le soleil. Petit à petit, le filet se referme sur le bel oiseau. Vous pouvez voler dans cette grande volière. Vous vous sentez en sécurité. Et même si vous avez laissé une petite porte de sortie, vous faites attention à bien la garder fermée. En effet, à l'extérieur de cette cage en or, Maya vous guette. Et lentement, vous oubliez ce que c'est que de voler en liberté, haut, très haut. Et si quelqu'un qui vous veut du bien essaie d'ouvrir la porte pour vous montrer l'espace de la liberté, vous vous dépêchez de la refermer. On peut voir dans la vraie vie ces oiseaux qui échangent leur liberté pour quelques graines et qui vont revenir dans leur cage même si une fenêtre est ouverte. J'ai vu plusieurs fois des brahmines très mécontents parce que j'osais exprimer une opinion différente en dehors de la boîte, ou que je n'étais pas d'accord avec ce qui était écrit dans le murli. Je pouvais déjà sentir l'odeur du bûcher. Nos voisins lokiques, états-uniens, disent « La vérité va tout d'abord vous faire chier, puis elle va vous libérer. » J'ai demandé à un de mes vieux amis, biqué pendant une trentaine d'années, comment il se sentait après avoir quitté cette organisation. J'étais surpris de sa réponse. Il m'a dit « libéré ». Peut-être que c'est un raccourci pour la libération dans la vie. Donc, j'ai décidé d'essayer. Cette année 2017, et ma première année de libération dans la vie. On peut bien sûr choisir de vivre dans cette cage en or. On peut y être très heureux. Si quelqu'un choisit de vivre dans cette cage en or, il faut qu'il sache que cette cage existe et qu'il fasse un choix éclairé et libre. Il doit savoir aussi qu'il y a tout un monde de liberté à l'extérieur où personne ne contrôle sa vie. J'ai été biqué pendant 34 ans et très heureux. Pourquoi? Parce que je prenais ce qui faisait mon affaire et tout ce qui me semblait un peu bizarre, je le mettais dans la poubelle de ma conscience. Si quelqu'un, connaissant tous ces aspects, mensonges et erreurs, choisit de rester brahmine, je le respecte. Pourquoi pas? C'est une belle famille, de très belles personnes, des programmes excellents, une organisation globalement positive. Moi, c'est la destination finale qui me dérange. Par contre, si comme moi, vous n'êtes plus capable de lire ou d'écouter encore et encore les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes concepts, c'est un signe de saturation. Si vous vous apercevez que cette connaissance n'est pas aussi vrai qu'on nous l'a enseigné, c'est un autre signe. Si l'âme aspire à la liberté, c'est grave. Si vous vous apercevez qu'en dehors de cette belle famille, il y a des millions de belles âmes qui ne deviendront jamais débiquées et qui ont une belle connexion avec Dieu, c'est très très grave. Et si comme moi vous découvrez que le monde possède des connaissances différentes, passionnantes, c'est que le filet en or est en train de se désagréger et que le bel oiseau est prêt à prendre son envol. Quel plaisir d'être libre !